Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Vous écoutez Les Rubis Noirs sur Radio Campus Paris, l'émission des cadres, des intellectuels et des entrepreneurs noirs afro-descendants. Retrouvez l'émission de mercredi par mois à 18h sur le 93.9 FM en DAB et sur le web. Le Rubis de ce jour est attaché financière à l'Organisation internationale de la francophonie. Tonnerre d'applaudissements pour Maryse Kimbaya. Merci Maryse d'avoir fait le déplacement. Je suis très heureuse de te recevoir sur Radio Campus Paris. Cela fait plus d'un an que j'essaye de t'avoir. On va revenir sur ton parcours universitaire. Tu as effectué une licence de droit international public à l'université de Rouen, puis un master en sciences politiques et gouvernement pour travailler dans les relations internationales. Pourquoi ne pas avoir intégré directement une école en relations internationales ou Sciences Po ?
Déjà, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est une première pour moi. Désolée d'avoir mis un an à me rendre disponible. Alors, pourquoi je n'ai pas intégré directement une école ? Je pense, comme beaucoup d'étudiants, en réalité, à la sortie du lycée, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de manière précise. Moi, je savais que je voulais faire du droit quand j'ai quitté le lycée. Maintenant, quel métier, quelle branche, etc. Je n'avais pas fait assez de recherches, si je dois véritablement être honnête. Mais je savais que je voulais faire du droit. Donc, instinctivement, en fait, je me suis inscrite en licence de droit et c'est comme ça que j'ai fait ma licence de droit. Comme beaucoup, quand on arrive, on est un peu biaisé par l'idée que l'on se fait du droit, l'idée que l'on se fait des études de droit. C'est un peu comme quand on regarde des séries à la télé, on s'imagine que le lycée, il y a les casiers, etc. Et ben, on s'imagine que la fac, c'est comme ce qu'on voit à la télé, comme ce qu'on voit dans les stories. Mais finalement, ce n'était pas exactement la même chose. Et c'est surtout la représentation du métier d'avocate que je voulais faire à la base, qui ne m'a pas, ça ne m'a plus semblé en fait judicieux pour moi de le faire. On pourra revenir après, plus tard, sur le pourquoi du comment. Mais j'ai pas fait de relations internationales directement parce que ça m'est pas venu en tête. Moi, je voulais vraiment faire du droit. Quel droit encore, je ne savais pas. Quelle branche encore, je ne savais pas. Mais je savais juste que je voulais faire du droit. Donc, quand j'arrive en L1, je suis très contente et tout ce que j'y découvre me convient et me plaît. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait RI directement.
Mais qu'est-ce qui t'a motivé, du coup ? Ou est-ce qu'il y a eu une rencontre, un événement, un élément déclencheur qui a fait que tu as basculé vers les relations internationales ?
Alors, au cours de mes études, moi, j'avais déjà plus d'appétence en fait, sur tout ce qui allait concerner le droit public. Parce que quand on commence en fac de droit, on a toutes les matières de tronc commun. Et en fait, petit à petit, on va se subdiviser, on va dire, entre le droit privé et le droit public. Et donc, du coup, instinctivement, les étudiants préfèrent le droit privé parce qu'on comprend très vite que c'est là où il y a le plus d'argent à se faire, donc tout ce qui va concerner le droit des affaires, le droit immobilier, des propriétés, etc. Et le droit public est un peu laissé à l'abandon, mais moi, c'est vraiment les matières que j'ai toujours appréciées. Tout ce qui allait être droit public international, droit public des biens, droit constitutionnel, alors que tout le monde déteste la Constitution, moi, j'ai adoré. Les cours de relations internationales, j'ai adoré. Donc, en fait, petit à petit, quand on choisit les options, etc., les TD, c'est vers ces matières-là que je me tournais. Mais finalement, c'était pas des choix choquants avec le recul. Parce que même quand j'étais au lycée, par exemple, c'était les matières comme SES qui m'intéressaient. C'était des matières comme l'histoire qui m'intéressaient. Donc au final, j'ai toujours été tournée un petit peu plus vers le monde que vers le domaine privé, on va dire. Ouais. Donc, ça s'est fait naturellement. Mais ce qui m'a réellement motivée... du coup, moi, je suis d'origine congolaise. Enfin, je suis congolaise, parce que j'ai toujours la nationalité. Je suis congolaise. Et je me rappelle qu'il y avait eu un événement organisé par l'Association des étudiants congolais, du coup, à Rouen, où on projetait un des films. C'est un peu cliché, mais en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé. Un des films du docteur Mukwege, donc du coup, l'un des premiers, c'était l'homme qui allait voir les femmes. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'en tant que Congolais, on le sait déjà que voilà, le pays traverse une crise qui dure depuis des années et des années. Mais moi, je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Donc en fait, tout ce qui se passe au Congo, finalement, c'est très lointain. Et même quand on est au Congo, parce que du coup, pour avoir fait l'expérience, pour être reparti au pays il n'y a pas très longtemps, même quand on est au Congo, on se rend vraiment compte que ce qui se passe à l'Est, C'est très, très loin quand même. Donc, on a tendance à jeter la pierre un petit peu aux enfants de la diaspora. Ah, mais bon, maintenant, c'est plus trop le cas. Mais à l'époque, on estimait que les gens ne se sensibilisaient pas assez, ne se levaient pas assez, ne s'informaient pas assez. Mais c'est très, très loin. C'est vraiment lointain. Et moi, ce qui m'a frappée, donc moi, je viens de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est vers le sud du pays. Et là-bas, on parle swahili. Et en fait, moi, ce qui m'avait frappée, et je pense que c'est aussi parce que je suis une femme et que ça concerne des femmes, mais de voir les témoignages, de voir tout ce qui s'y passe, c'était déjà c'était choquant, un peu traumatisant. Et ce qui m'a fait, en tout cas, basculer véritablement vers les RI, c'est parce que je voyais qu'en fait, les dames parlaient en swahili, et même la traduction de ce qu'elles étaient en train de dire, c'était pas aussi violent et c'était pas aussi profond. Ça veut dire que les mots utilisés par les traducteurs en français ne reflétaient même pas ce qu'elles étaient en train de raconter. Ça veut dire qu'en fait, les mots étaient tellement plus durs et tellement plus forts. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Après, bien évidemment, je vais pas mettre mon casque bleu, je vais pas aller sur le terrain, mais je me suis dit, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ou quelles sont les études que je peux faire pour pouvoir, en fait, œuvrer dans ce sens-là. Et c'est ça aussi qui a fait que, petit à petit, j'ai essayé de me renseigner un petit peu plus déjà sur la situation, de me renseigner un petit peu plus sur les possibles débouchés en termes d'études, en termes de profession. Et c'est ce qui a fait, en tout cas, mon petit cheminement personnel. Après, je ne viens pas non plus de nulle part. Moi, mon père avait fait aussi des études en droit, et il était aussi dans tout ce qui était un petit peu influence, diplomatie et autres.
Ah, okay.
Donc au final, comme on dit, un pommier ne donne pas de banane, quoi. Enfin, c'est petit. En fait, mis bout à bout, on se rend compte que finalement, le cheminement ne sort pas de nulle part. Et tout fait sens à un moment. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment ce moment-là précis où je me suis dit, déjà, je sais que je voulais plus devenir avocate. Et je me demandais, mais en fait, quand on n'est pas avocate et qu'on fait du droit, qu'est-ce qu'on fait finalement?
Oui.
Donc, et c'est là où j'ai commencé à explorer petit à petit les différentes options qui pouvaient s'offrir à moi.
Et bien justement, en parlant d'options, lorsque l'on parle des relations internationales, très souvent on pense à ambassade, ONG. Il y a plein d'autres métiers.
Il y a d'autres métiers, parce qu'en fait, les ambassadeurs et les organisations internationales, finalement, ce sont un peu les porte-étendards. C'est véritablement ce que l'on peut voir ou que l'on peut connaître sur la scène publique de façon globale. Bien que, je ne sais pas vous, mais les ambassadeurs, finalement, on ne les connaît pas. On sait juste que c'est un métier qui existe.
Oui.
Mais si vous croisez un ambassadeur, vous n'allez pas savoir que c'est un ambassadeur.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est le métier qui fait ça, c'est la profession qui exige aussi une certaine discrétion. Mais il y a d'autres métiers. On peut très bien être dans tout ce qui sera coopération. Donc en fait, vous devenez véritablement un agent. Vous êtes en lien en fait entre peut-être une association de la société civile dans n'importe quel pays et une organisation internationale et une association. Ou peut-être vous êtes un envoyé d'un des pays. Donc en fait, vous avez des gens qui travaillent dans la coopération. Vous avez des gens qui sont spécialistes ou experts de différents programmes. Parce qu'effectivement, quand on travaille dans une organisation internationale, il y a des programmes qui sont mis en place, et ces programmes sont mis en place par des experts, par des agents locaux, et parmi ces agents locaux, il y a encore d'autres personnes qui coopèrent juste dans un périmètre bien précis. Donc finalement, en fait, une ambassade ou une organisation internationale, c'est un peu comme n'importe quelle autre entreprise.
Oui.
Ça veut dire que vous allez avoir plusieurs domaines, plusieurs plans. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, à l'OIF, je suis à la direction financière, mais il y a une direction politique, il y a une direction des langues, il y a plusieurs directions.
D'accord.
Donc, en fait, vous pouvez travailler dans une organisation internationale sans pour autant être ambassadeur ou être diplomate, par exemple.
Oui.
Ça, c'est une idée reçue que beaucoup de gens ont. Moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas diplomate. Je ne peux pas être diplomate parce que je travaille en France et je vis en France. Mais imaginons que je sois déployée ou que j'obtiens un poste ailleurs. Si je travaille pour le compte de la RDC, là, je deviendrai diplomate.
D'accord.
Donc, en fait, c'est des statuts qui diffèrent en fonction du poste et en fonction aussi de votre parcours, en fait, du parcours professionnel que vous avez. Si vous êtes comptable, vous pouvez très bien être comptable dans une organisation internationale.
D'accord. Ah, donc, OK.
Parce que moi, je travaille avec des comptables et pourtant, ce sont des agents internationaux, mais ils ne sont pas forcément diplomates. Donc, il y a tout un champ qui s'ouvre. Malheureusement, c'est vraiment une idée reçue. On a l'impression que tous ceux qui travaillent dans les organisations ou des ambassades sont forcément des diplomates, sont forcément des gens qui ont fait du droit, sont forcément des gens qui sont dans les relations internationales. Et moi, aujourd'hui, je l'expérimente. L'OIF est une organisation internationale et pourtant, je ne suis pas directement liée à toutes les activités de l'OIF sur le plan international ou dirigée vers l'extérieur. Donc, il y a vraiment plusieurs postes à occuper et plusieurs carrières aussi à effectuer au sein des organisations.
Comment s'est passée la transition entre ta vie étudiante et le premier poste que tu as effectué en tant que chargée des affaires diplomatiques auprès de la délégation permanente de la RDC à l'UNESCO ? Ça fait long et c'est stylé comme...
C'est long, c'est stylé et pour le coup, ce n'est pas que stylé dans le nom, c'est aussi stylé dans les différentes tâches. Alors après, moi, j'ai un parcours un peu, je dirais pas atypique parce que ce n'est pas forcément le terme adéquat, mais... Le poste à l'UNESCO n'a pas été mon premier vrai poste que j'ai eu à occuper en fait à temps complet, puisque à un moment j'ai fait une pause d'un an, un an et demi à peu près, où j'ai travaillé en tant que juriste. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, donc du coup j'avais dit que j'y reviendrais, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de définitivement changer de voie, parce que au final l'idée elle est un petit peu dans sa tête, on essaye de voir ce qu'on peut faire, etc. Mais quand j'ai travaillé finalement en tant que juriste, ce pourquoi j'avais étudié et le diplôme que j'avais obtenu, ça ne m'a pas plu en fait. Ça ne m'a pas plu de juste faire des contrats, de gérer les procédures de licenciement ou les blâmes ou autres. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu d'être dans un cadre privé, dans un cadre... je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était trop bizarre parce que avec toutes mes amies et toutes mes collègues de l'université, on avait tout à peu près le même poste. Tout le monde s'épanouissait de manière concrète et pleine dans son travail, sauf moi. Sauf moi. Alors, je ne sais pas si c'était la structure, je ne sais pas si c'est parce que c'était un casino. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais au final, c'est vraiment ça qui m'a motivée à reprendre mes études. Et je me suis dit, ouais, je veux vraiment faire quelque chose qui a du sens. Même le choix de faire du droit, c'était pas juste pour le prestige, c'était parce que je me disais, en fait, dans cette vie où tout est un monde capital, on va dire, ou un monde où chacun est un peu centré sur lui-même, qu'est-ce que moi je peux faire ou quel apport je peux avoir au niveau de la société. Alors, quand je parle de la société, je ne voyais pas forcément au niveau très, très grand.
Mais tu pouvais travailler en tant qu'avocate en droit pénal international.
C'était ça, à la base, mon...
Droit international public.
C'était ça, à la base, mon vœu. En tout cas, je me disais, j'ai envie d'être avocate en droit international ou avocate droit humain, etc. Oui, c'était vraiment quelque chose comme ça que je voulais faire. Et en fait, c'est le métier d'avocat tout court qui m'a plu... qui ne me plaisait pas parce que je suis une femme, même si à l'époque j'étais un peu jeune, mais je voyais quand ils faisaient les salons, etc., où il y avait les avocats qui venaient. Comme je le disais, en fait, on tombe très vite des nues parce qu'un avocat, pour gagner énormément d'argent comme on se l'imagine quand on commence, c'est donner toute sa vie.
Oui.
C'est donner toute sa vie, c'est énormément de sacrifices sur le plan personnel. Et moi, je me suis dit, mais en fait, non, plus tard, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir des enfants. Et pour être une excellente avocate, c'est difficile d'être une excellente mère ou être une excellente épouse. Bien évidemment, personne n'est excellent. La perfection n'existe pas. Mais trouver très vite, en fait, c'est poser cette question de la balance entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et je me suis dit qu'en fait, avocate, non, j'avais plus trop envie. Donc, c'est pour ça que j'ai juste été juriste. Et je me disais, ça pouvait suffire en réalité. Je me disais qu'en étant juriste, j'allais avoir cette petite balance-là. Mais en étant maintenant juriste pour de vrai, j'avais pas cette... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? J'avais pas cette motivation-là, j'étais pas animée par quelque chose.
Oui, ouais.
C'était vraiment un travail lambda, simple, et je me disais, non, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie.
Oui.
Et c'est ça qui m'a motivée, donc du coup, j'ai repris mes études en étant toujours en poste. À l'époque, ce qui m'a sauvée, c'est qu'on était en plein Covid, donc on avait les cours à distance. Donc en fait, je travaillais et je faisais les cours en même temps. C'était un peu compliqué, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc du coup, au niveau de ma transition, en tout cas, on va dire étudiante, professionnelle ou vraiment en vrai salarié, ça s'est fait à ce moment-là. Je pense que comme tout le monde, tout début sont un peu difficiles parce que L'université, c'est un monde tout à part du monde du travail. Oui. Et nous, on n'a pas forcément la chance de faire d'alternance ou autre en licence ou mon premier master. Donc en fait, le monde du travail hors job étudiant, moi, je ne connaissais pas énormément. Donc il faut forcément s'adapter. Et après, quand tu es arrivée à l'UNESCO, là, c'était encore différent. Parce qu'on est dans un cadre... c'est un peu grandiose quand on arrive à l'UNESCO. Il y a deux bâtiments distincts. Il y a un bâtiment pour les délégations, l'autre avec les salles que vous pouvez voir à la télé, sur les vidéos, etc. Donc quand on arrive, en fait, on se sent déjà tout petit. Il y a énormément de monde, tout le monde qui circule comme ça. Donc en fait, le premier jour, on se tient juste comme ça. Et on est là, bonjour, 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 bonjour. Et on se tient juste à carreau. Donc c'est très impressionnant. Après... moi, la chance que j'ai, c'est que j'arrive quand même à m'adapter assez facilement. Donc, très rapidement, en fait, j'ai un bon sens de l'observation. Donc, on observe un peu ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment... Des choses très simples. Hein. Ça peut paraître bête, mais juste comment les gens s'habillent. Forcément, en fait, directement, ça... Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui va au travail débraillé ou qui met des claquettes ou autre. Mais ça m'a aussi confortée dans mon choix de me dire que... Ah oui, en fait, là, les gens, ils sont vraiment tirés à quatre épingles tout le temps. C'est tous les jours en talons. Moi, je me rappelle le couloir dans lequel nous étions, puisque du coup, les délégations ont chacun un nombre prédéfini de bureaux. Nous, on était dans le même couloir avec l'Arabie Saoudite et l'Irak, je crois. Et je voyais les dames qui étaient là avec leurs foulards, les bijoux, le col noir dans les yeux, l'or partout. Et je les regardais, je me disais, ah ok, donc en fait, c'est comme ça qu'il faut être. Et c'est comme ça que j'ai envie d'être aussi. Et en fait, ça passe aussi dans des petites choses comme ça. Et je sais que moi, on m'a gardée. Finalement, parce que j'avais commencé en stage, on m'a gardée à la délégation parce que j'ai su aussi me fondre un petit peu dans la masse. Ça veut dire que bon...
T'as adopté les codes.
Voilà, exactement. Faut adopter les codes. Je sais que j'ai un visage qui fait pas très... Quand je dis mon âge, les gens s'étonnent souvent. Mais je me disais, mais j'ai pas envie de ressembler à une stagiaire. Donc tous les jours, je faisais l'effort de bien m'apprêter, de bien m'habiller, de parler correctement, en tout cas, quand on me voit, d'avoir une bonne présentation. Et ça, je sais que ça a joué. Parce que finalement, si on ne me demande pas, on ne saura pas que je ne suis qu'une stagiaire.
Oui.
C'est-à-dire que les autres des autres délégations disaient « Ah, mais c'est la nouvelle collaboratrice de la délégation de la RDC, alors qu'à l'époque, j'étais que stagiaire. » Donc ça, c'est des petites choses aussi qui je pense qu'ils sont importantes. Il faut savoir s'adapter, quel que soit le milieu dans lequel on arrive. De toute façon, moi, je parle des relations internationales puisque c'est là où j'évolue, mais même lorsqu'on est, on travaille dans la communication, dans le marketing, il faut toujours savoir s'adapter et de voir en fait les codes qui sont mis en place. Si ça vous convient, essayez de vous y conformer et ça vous aidera en fait à aller un petit peu plus vite ou à vous démarquer des autres. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée, je pense. Le fait de se démarquer et d'adopter rapidement les codes, tant sur la présentation, tant sur la façon de travailler.
Ou de s'exprimer.
De s'exprimer, etc. Ça, c'est vraiment très important.
Tu es devenue attachée financière à l'Organisation internationale de la francophonie. Enfin, c'est ton poste actuel. Tu n'as pas fait d'études de finance. Donc, comment t'as réussi à devenir
attachée Alors, ça, c'est la question. C'est la question à 1 million, je pense, parce que ça étonne tout le monde. Moi la première d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, moi j'avais passé les entretiens, j'avais oublié que j'avais envoyé ma candidature. J'ai passé les entretiens, j'étais au Congo, j'étais à Lubumbashi dans des conditions plus que loufoques, parce qu'on n'avait plus d'électricité à ce moment-là dans le quartier, une coupure. Et c'était très marrant parce que je me disais, oh Seigneur, déjà je suis en train de postuler pour un poste auquel je n'ai pas véritablement toutes les qualifications requises. Et en plus, tu es en train de faire ton entretien dans des conditions... En fait, je parlais, et plus je parlais, et plus le soleil se couchait, Et en fait, je finissais dans le noir. Et c'était vraiment très marrant. Mais au final, je pense que... Oui, je n'ai pas fait d'études, mais il faut savoir, en fait, faut savoir se vendre.
Oui.
Dans le monde du travail, de façon globale, il faut savoir se vendre. Je sais très bien que le fait d'avoir été à l'UNESCO...
Ça t'a aidé.
Ça m'a aidé. Le fait d'avoir fait des études aussi en sciences politiques, relations internationales, d'avoir des compétences en droit, ça m'a aidé aussi. Maintenant, sur toute la partie financière pure, simple, je n'ai aucune notion. Moi, les chiffres, je les ai évités jusqu'au bout. Même quand il fallait choisir droit fiscal, je n'ai pas choisi droit fiscal. Donc, en réalité, je ne saurais pas véritablement donner d'explication sur le pourquoi du comment et comment j'ai réussi à intégrer la DAF. Mais oui.
Mais c'est quoi tes missions au quotidien ? Tes missions au quotidien, c'est quoi ?
Alors au final, les missions au quotidien, moi, donc à la DAF, on a du coup les attachés, nous. Et dans les attachés, il y a ceux qui vont gérer un petit peu tout ce qui sera la gestion un peu quotidienne des flux financiers, le budget, etc. Donc ça, c'est moi. Et ensuite, on a les comptables. Et après, on a les experts comptables, etc. Donc plus on monte, le DAF, celui qui va gérer le budget, etc. Donc moi, en fait, de façon globale au quotidien, moi, comme je l'ai dit, je vais gérer... ça sera vraiment plus le budget. Donc... l'organisation en tant que telle, les directions. Chaque direction a un budget bien prédéfini qui lui est alloué. Et moi, dans mes missions au quotidien, on va essayer de regarder en fait, les contrats qui sont conclus, les achats qui sont faits. En fait, est-ce que chaque direction arrive à gérer convenablement son budget ? Donc moi, par exemple, imaginons on a une appel d'offres. Imaginons, je sais pas, je dis quelque chose. Là, par exemple, on est en train de chercher une entreprise qui va faire de la manutention. Donc, gérer toutes les affaires générales de l'OIF, les bâtiments, etc., etc. On a besoin d'une entreprise qui puisse venir, en fait, qu'on puisse appeler rapidement et qui puisse intervenir. Donc, en fait, on va procéder à l'appel d'offres. L'appel d'offres, il y aura la commission. On va regarder, en fait, déjà sur le plan technique, est-ce que les missions que propose l'entreprise, est-ce qu'elles nous conviennent à nous aussi en fonction de nos besoins, donc avec le cahier des charges, etc. Donc, tout ça, c'est... moi et d'autres collègues qui le font, mais c'est ça, en gros, dans la procédure. Et après, on va regarder aussi la partie financière. Quelles sont les offres que eux nous proposent ? Qu'est-ce que nous sommes prêts à mettre sur la table également ? Donc, toutes ces procédures-là, c'est nous qui les faisons, donc ceux qui font partie de la commission, donc moi et d'autres collègues. Et ensuite, une fois qu'on va conclure le contrat, il y aura le contrat avec, bien évidemment, les différentes modalités financières qui vont être mises en place. Une fois que le contrat est conclu, moi, maintenant, c'est à moi de voir. Est-ce que quand le client, quand le fournisseur arrive, fait du coup sa mission, imaginons, je sais pas, on a besoin que les chauffages soient révisés ou je sais pas. Quand il arrive, il nous fait la facture. Est-ce que cette facture-là va correspondre à ce qui avait été déjà prédéfini ? Est-ce que le montant correspond ? Est-ce qu'à la fin de l'année, on est arrivé au bout des 100 000 euros, par exemple, qui étaient budgétés, prévus ? Est-ce qu'on est un petit peu plus ? Est-ce qu'on est un petit peu moins ? Si c'est un petit peu moins, est-ce qu'il y a moyen de réviser le contrat ? Etc. Et en fait, moi, c'est ce que je vais faire de façon quotidienne, on va dire. Regarder un petit peu ce qui a été conclu, les contrats, toutes les modalités financières qui ont été prédéfinies et voir où est-ce qu'on en est, toujours en lien avec le budget. Je reviens toujours avec le budget parce que si on vous donne, je ne sais pas, 1 million, il faut dépenser les 1 million. Oui. Si on dépense plus d'un million, il y a un problème. Si on dépense un petit peu moins d'un million, là, du coup... il y a lieu de s'asseoir, de revoir quelles ont été les dépenses qu'on a surestimées ou sous-estimées, etc. Et après, on a les factures normales qui arrivent, le contact avec les fournisseurs de façon globale. Oui, en gros,
ça te plaît ?
C'est alors moi ce qui m'a plu au début, c'était le fait de voir un petit peu la partie. Une autre partie des organisations internationales. Parce que quand j'étais à l'UNESCO, c'était vraiment la partie diplomatie, influence. Donc en fait, vous allez rencontrer les autres délégations, vous allez rencontrer d'autres ambassadeurs, parfois des ministres, etc. Lorsque le pays a peut-être un projet bien particulier, veut s'allier ou peut-être voudrait bénéficier d'un des programmes. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les organisations internationales ont des programmes. Lorsque, par exemple, la RDC veut bénéficier d'un programme de l'UNESCO, il faut rencontrer déjà peut-être les États membres qui ont déjà eu accès à ce programme-là, voir comment le programme s'est déployé, dans quelle région, etc. Donc ça, c'est toute la partie un peu de recensement, de référencement, un petit peu de voir ce qui a été fait ailleurs. Regarder aussi, moi, c'était un peu ça mon travail là-bas, c'était de regarder, en fait... le programme qui est proposé, comment est-ce qu'il peut s'implanter et comment est-ce qu'il peut, en tout cas, se déployer dans une région bien particulière de la RDC, compte tenu peut-être de notre situation géographique, de notre situation politique, de notre situation sécuritaire et autres. Donc ça, c'était pas mal. Mais du coup, à l'EIF, là, je suis vraiment dans la partie institutionnelle. Oui. Donc comment est-ce qu'une organisation internationale est régie ? dirigée, comment est-ce qu'elle tourne en fait de façon globale, puisque finalement les programmes, nous, quand on vous dit, je sais pas moi, je prends un exemple, quand on vous dit par exemple que l'UNESCO lance un programme éducatif pour les pays en zone de guerre, donc la RDC, la Palestine, le Soudan, etc., etc. Nous, on voit juste le programme, on voit les attentes et les buts recherchés, mais derrière, il y a toute la partie programmation budgétaire, okay. Toute la partie programmation financière. D'accord. Donc ça, c'est ce que on fait maintenant. En tout cas, c'est ce que je fais maintenant à l'EIF. Donc en fait, ça me permet de voir. En fait, c'est comme un miroir. Ça me permet de voir un petit peu l'envers du décor entre guillemets. Donc il y a la partie diplomatie, influence où les diplomates, les ambassadeurs et autres vont sur le terrain, essayent de faire en sorte de promouvoir un petit peu tout ce que l'organisation peut faire. Et puis, en coulisses, on va dire, on aura toute la partie où faut gérer les flux financiers, les flux budgétaires, tout ce qui va être contrôle, exécution budgétaire et autres et autres. Donc, c'est un peu ce qu'on fait à l'EIF. C'est intéressant.
C'est prenant, c'est stressant ?
C'est prenant, oui. C'est prenant. Stressant, je ne dirais pas stressant. Comme je pense, ça, c'est toutes les organisations qui sont un peu sur le même tempo, que ce soit à l'EIF ou à l'UNESCO, c'est assez chill comme ambiance de travail. Ça veut dire on arrive tranquillement, on gère ses dossiers tranquillement. Il y aura juste des pics, soit en fonction peut-être d'un événement bien précis ou peut-être d'une période bien précise. Nous, par exemple, là, on est en clôture budgétaire, on est en train de terminer l'année. Donc là, forcément, ça devient un peu prenant, oui, ça devient un peu stressant. Mais sinon, de façon globale, c'est des choses qui se gèrent calmement. Après, forcément, oui, si la secrétaire générale, elle a un besoin bien particulier, oui, dans ces cas-là, il faudra se dépêcher peut-être de faire les engagements juridiques, de voir les fournisseurs ou quels fournisseurs choisir, etc. Parce que justement, c'est pour la secrétaire générale, donc il faut faire les choses bien. Mais de façon globale, c'est pas si stressant que ça, c'est pas si prenant que ça. Ça prend beaucoup de temps, les journées sont un peu denses, parce qu'on commence pas très tôt, mais on finit pas très tôt non plus. Ça veut dire c'est très, très, très courant de nous voir quitter le bureau à 19h30, 20h. Ça dépendra juste de la période.
On s'accorde maintenant une petite pause musicale avec Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You.
Heaven.
Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Nous sommes de retour dans les Rubis Noirs, toujours en compagnie de Maryse Kimbaya, notre invitée du jour. Alors Maryse, faut-il maîtriser plusieurs langues étrangères ?
Oui. Ça aussi, je disais tout à l'heure, ce qui a réussi en tout cas à me... Ce qui a su me démarquer, on va dire, des autres stagiaires ou autres, c'est que quand on arrive dans un milieu multiculturel, forcément tout le monde parle, que ce soit... La francophonie, c'est un peu moins flagrant parce que forcément on parle tous français, mais à l'UNESCO par exemple, il faut savoir parler au moins anglais.
Toi, tu sais parler combien de langues ?
Moi, je sais parler anglais, je sais parler français, je sais parler lingala, je sais parler swahili.
Oh,
Donc, au final, l'anglais, quand même, m'a sauvée.
Oui.
Si vous pouvez rajouter une langue, l'espagnol, parce que toute l'Amérique latine et autres, oui, forcément, oui. C'est l'espagnol.
Et le swahili, ça t'a
alors,
aidé ?
Le swahili, ça m'a aidé quand on a fait le Swahili Day, parce que du coup, il y a un jour, je ne me rappelle plus exactement, mais juste après la semaine africaine, il y a un jour où on célèbre un petit peu le swahili, puisque le swahili, c'est en dehors de l'anglais, le français, oui. Les langues coloniales, on va dire. Dans les langues vraiment africaines, c'est la langue la plus parlée en Afrique, puisqu'on la retrouve en RDC, au Rwanda, au Burundi, au Kenya... même quand on descend un petit peu, il y a des langues... Enfin, en gros, je sais que, par exemple, à Madagascar ou même aux Comores, il y a des mots, il y a des dialectes qui se rapprochent très, très, très proches du swahili. Donc, ça m'a aidé aussi quand même parce que quand on fait ce genre d'événement, forcément, le fait de parler la langue, c'est un atout.
Oui.
Parce qu'on veut promouvoir la culture autour de cette langue-là, bien qu'elle soit différente. Hein, rien qu'au Congo aussi, moi je parle swahili de Lubumbashi, mais si quelqu'un de l'Est parle avec moi, il va savoir que directement, en fait, c'est pas le même swahili. Donc en fait, cette diversité-là, cette différence-là aussi, c'est quand même une richesse, et de pouvoir l'apporter, c'est quand même intéressant. Surtout que moi, à la délégation, il y avait personne d'autre ne parlait swahili à part moi. Donc ça va. J'étais contente quand même.
Les métiers internationaux attirent beaucoup, mais restent très sélectifs.
Oui.
Quel concours aux procédures de recrutement faut-il passer pour intégrer les institutions comme l'OIF, l'UNESCO ? Parce que c'est très, très sélectif. Je sais que moi, j'ai plusieurs fois pensé, ou même j'ai même candidaté pour des postes en communication. Je n'ai jamais eu de réponse.
Ouais.
Bref, c'est carré, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a des livres aussi pour se préparer au concours, aux procédures ? Tu sais, comme les livres pour le bac
Alors, pour cette question-là, je ne suis pas l'exemple parfait, parce que moi, on va dire, je ne sais pas si je dirais que je passe au travers des mailles du filet, mais en tout cas, le milieu est très sélectif, le milieu est très fermé. Moi, je me souviens à mon époque, alors évidemment, on n'est pas si vieille que ça, mais à mon époque, moi, j'avais même pas entendu parler de ça. Ça veut dire que je ne savais même pas que l'UNESCO, c'était à Paris. Je ne connaissais pas l'OIF, je ne connaissais pas l'OCDE. Enfin, en gros, après, j'ai fait mes études en province. C'est un petit, c'est pas un village, mais une toute petite ville qui s'appelle J1. Mais du coup, je pense que déjà, premièrement, il faut essayer de s'ouvrir. Soi-même. Il faut essayer d'aller chercher les informations. Là, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une époque qui est quand même...
Assez connectée.
On a TikTok, on a les réseaux, on a YouTube, on a les podcasts, on a oui. plein de plateformes où s'informer et trouver, en tout cas, des voies qui pourraient nous intéresser. Chose que moi, à l'époque, on n'en avait pas tellement. Ou alors, si elles existaient déjà, moi, j'avais pas accès. Donc, en fait, par exemple, pour l'UNESCO, c'est en intégrant, du coup, mon master... Et il y a une des questions que tu vas me poser, j'y répondrai après. Mais c'est en intégrant le master que je me suis dit, oui, en fait, j'habite à Paris. Les organisations, généralement, elles sont ici. Pourquoi pas candidater ? Pourquoi pas essayer ? Moi, j'ai candidaté de manière très simple. J'ai juste envoyé un mail à la délégation de mon pays. Ça veut dire, j'ai envoyé un mail à la délégation de la RDC. Et ils me sont revenus... bon, après, ça prend quand même du temps. Les processus de recrutement, que ce soit pour les stages, que ce soit pour les postes, c'est environ 6 mois. C'est 6 mois, 1 an. je disais tout à l'heure, j'avais complètement oublié que j'avais candidaté pour l'OIF, parce que c'est la vérité. Ils m'ont contacté au mois d'août, je crois, et je crois que j'avais dû postuler au début de l'année. Donc, vous voyez, en fait, vous avez le temps d'oublier, vous avez le temps de faire complètement autre chose, juste dans l'attente d'une réponse. Donc, c'est vrai que c'est très fermé, c'est très carré. Il faut essayer de répondre. C'est pas des candidatures que l'on fait comme quand on candidate, par exemple, pour une entreprise lambda. Il faut vraiment prendre son temps de bien... détailler chaque expérience, de bien essayer de mettre en valeur en fait tout ce qu'on a pu faire.
Oui.
Dans les organisations internationales, vu que ce sont des métiers ou des milieux où on recherche beaucoup de compétences, finalement, par exemple, moi, sur la partie financière à l'OIF, j'avais pas du tout les compétences requises, en tout cas d'entrée de jeu. Mais comme j'ai su faire plusieurs choses avant, il faut savoir juste les mettre en valeur.
Oui.
Quand on candidate à des différents postes, et même pour des stages, ça veut dire quand on a, par exemple, une expérience associative...
Il faut le mettre en avant.
Il faut le mettre en avant. Même sur des choses qui sont très simples. Imaginons, vous êtes encore au lycée. Je ne sais pas exactement si ça existe encore, mais moi, par exemple, j'étais au conseil de vie étudiante ou vie scolaire, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelait. Donc, en gros, on faisait toutes les manifestations, toutes les l'organisation des bals, des carnavals, la gestion des élections, des différents représentants de l'école ou quoi. Ça, c'est des choses. Si on arrive à bien trouver les formulations, c'est des choses qu'on peut faire prévaloir.
Oui.
Exactement. Parce que finalement, quand on commence en tant qu'étudiant, on n'aura pas l'expérience professionnelle. Ce qui est normal, vu qu'on sort de l'école ou qu'on est encore en études. Donc, en fait, il faut juste chercher dans tout ce que l'on fait à côté. Et le conseil que je peux donner, en dehors des livres, des préparations au concours, parce que les préparations au concours, forcément, ça va se faire dans un cadre académique. Donc, si on fait des prépas, si on fait des choses comme ça, les professeurs à l'école vous le diront déjà. Si vous faites des licences, cherchez de vous-même. Et là, aujourd'hui, comme on l'a dit, on est assez connectés. Il y a plein de plateformes, il y a plein de moyens, en tout cas, de s'informer et de s'instruire sur les différents sujets qui nous plaisent. Il faut déjà avoir aussi une certaine appétence. Comme je l'ai dit, moi, c'était l'histoire qui m'intéressait. C'était la géographie qui m'intéressait. Donc, en fait, déjà, de base, c'est vraiment des choses qui m'intéressent. Donc, finalement, quand j'arrive et que je fais des cours de géopolitique, ça fait sens et c'est pas si difficile pour moi parce que c'est déjà des choses qui...
Voilà. Que tu connais, que tu aimes.
Exactement. Donc, il faut vraiment aller dans ce qu'on aime, dans ce qui nous plaît déjà de base. Et puis après, petit à petit, maintenant, essayer de construire brique par brique les compétences qui seront un petit peu plus pointues, des choses que l'on va vous demander, soit à l'école, soit dans votre cadre professionnel.
Est-ce que tu as rencontré des défis, on va dire, en termes de sexisme, de racisme dans le milieu des relations internationales ou même de, je sais pas, de xénophobie? Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes femmes noires qui souhaiteraient se lancer dans les carrières diplomatiques, affaires internationales?
Ouais. Alors déjà, moi, quand je postulais, je me souviens, j'ai été rencontrée, mais ça, c'est plus administratif, on va dire. Si je peux te donner un conseil, si vous êtes français... Et que du coup, tout ce qui va concerner les relations internationales ou les ministères ou autres, c'est mieux. Parce que moi, il y a plein de postes auxquels je n'ai pas pu... Enfin, en tout cas, on n'a pas retenu ma candidature. Parce que je suis congolaise.
Tu n'as pas la double nationalité.
Je n'ai pas la double nationalité. Au Congo, on a... du coup, ça c'est aussi en pourparlers au niveau du gouvernement. Essayer d'ouvrir la double nationalité aux Congolais. Parce que du coup, nous, on ne l'a pas. Et moi, jusqu'à présent, j'ai fait le choix
de la garder.
De la garder. Je la garde pourquoi ? Parce que j'ai envie d'évoluer dans les milieux multiculturels, internationaux, et je sais que les agents français sont déjà surreprésentés. Donc, je n'ai pas vraiment d'intérêt actuellement de devenir française. Mais si jamais vous avez des aspirations, je ne sais pas moi, politiques, plus politiques quand même, des aspirations politiques, vaut mieux être français. Donc ça, c'était vraiment la première barrière à laquelle je me suis confrontée. Maintenant, que ce soit sexisme ou racisme, pas tant que ça. Et c'est ce qui m'a plu aussi parce que on est dans des milieux où en fait on voit tout le monde. À l'OIF, il y a pratiquement tous les pays d'Afrique. À l'UNESCO, c'est tous les pays des États membres, on va croiser tout le monde. Donc au final, on se retrouve pas dans un milieu où, vous savez, parfois vous vous retrouvez dans un endroit et vous êtes la seule noire.
Oui.
Ça m'est déjà arrivé. Vous êtes la seule femme. Ça m'est déjà arrivé également. Donc forcément, en fait, les regards sont braqués un petit peu sur vous. Si vous aspirez en tout cas à une carrière internationale, ce genre de choses, vous n'allez pas les rencontrer. Par contre, Le sexisme, oui, parce que forcément, c'est des milieux de pouvoir, c'est des milieux d'influence. Donc, quand on est jeune et qu'on est une femme et qu'on est noire, bah, finalement, on se retrouve un peu en queue de file parce que vous n'allez pas forcément être le premier choix directement. On aura tendance à donner les programmes ou la gestion des programmes, la gestion des dossiers à des hommes. La diplomatie, c'est un milieu d'hommes vieux, hein, si on se dit la vérité. C'est un milieu où, c'est des gens qui ont des 30 ans de carrière, des 25 ans de carrière. Là, moi, à la DAF, quand les gens parlent, ah, mais je suis arrivée en 95. Ah, mais je suis née en 95. Tiens, ça veut dire que tu travaillais déjà, j'étais même pas encore née. Donc, oui, le sexisme un petit peu, mais après ça, je pense que c'est un peu représentatif du monde professionnel de façon globale. On est toujours confronté un petit peu à ce genre de choses. Et en tant que femme, moi, ce que j'aimerais dire, c'est essayer je sais pas comment je pourrais dire ça. Il faut essayer de dépasser ça.
Oui.
Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a une certaine posture, il y a une certaine tenue à avoir. Non pas de se brider, mais pour rentrer un petit peu dans le moule. Il faut se fondre un petit peu dans le paysage. Et pour se fondre dans le paysage, il faut se faire remarquer, mais pas de la mauvaise manière. Ça veut dire, on ne va pas venir au travail en mini-jupe, par exemple. On ne va pas venir au travail avec des décolletés ou des choses comme ça. Les tatouages, etc. Parce que voilà, c'est un milieu qui est très carré, c'est très conventionnel. Donc, si on veut vraiment évoluer, ne pas brider sa personnalité, ça, je ne dirais pas ça, mais il faut faire attention. Faut faire attention parce que finalement, comme je le dis, franchement, ça, je le martèle et je tiens vraiment à ce que chacun puisse. C'est vraiment un milieu d'hommes.
D'accord.
C'est un milieu d'hommes. Les diplomates, c'est des gens qui ont des 50 ans, 60 ans, 70 ans. Même les femmes, c'est des femmes qui sont là depuis 25 ans, 30 ans, etc. Donc forcément, c'est comme si vous avez affaire à, je sais pas, la maman ou la tata de votre famille qui est un peu stricte là. C'est comme ça que les gens sont. Donc on garde notre personnalité et de toute façon, si c'est votre voie, si c'est ce que vous êtes amené à faire et si vous aimez ce que vous faites, vous allez forcément évoluer sans vous travestir, sans vous brider. Mais il y a certains codes à adopter et à conserver surtout. Après, forcément, si vous faites remarquer, vous faites remarquer. Moi, j'ai envie de dire par la grâce de Dieu, mais j'arrive à me faire remarquer, mais pas pour de mauvaises raisons. Donc, si la lumière doit s'allumer, elle s'allumera forcément. Et ça sera pour les bonnes raisons et pour mettre en valeur, en tout cas, vos compétences et vos qualités. Et pas juste parce que vous vous habillez d'une certaine manière ou « Ah, mais c'est celle qui parle un peu bizarrement. Ouais. » Donc, voilà.
Merci à toi, Maryse, pour ce bel échange inspirant.
Merci.
C'est ainsi que se termine cet épisode des Rubis Noirs sur Radio Campus Paris. Un grand merci à mon invité, Maryse.
Merci à toi.
Vous pouvez suivre l'émission sur Instagram, enfin l'actualité sur Instagram, @lesrubisnoirs et TikTok @lesrubisnoirs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.